Ces 8 ou 9 derniers jours ont été très éprouvants avec l'attaque sur Paris, il y a une semaine, et celle de la nuit dernière. Puis une autre attaque a eu lieu il y a quelques jours sur l'hôtel Radisson au Mali, tuant environ 20 personnes et prenant plus de 170 otages. Bien sûr, les Ismaélites, ceux qui constituent le groupe ISIS là-bas, font tout cela et ils tuent des gens dans le monde entier. Il est important que nous comprenions ce qui se passe du point de vue de Dieu. Nous le devons vraiment, nous devons le comprendre, parce que cela change nos vies. Notre vie entière changera du tout au tout. Certains d'entre vous le comprennent, d'autres non. Beaucoup d'entre les jeunes assument que les choses continueront comme actuellement pour 20, 40 ou 80 ans, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Notre monde est en train de changer et les événements prophétiques vont sans aucun doute s'accélérer. Les choses s'accélèrent déjà. Nous sommes donc proches de la fin de cette société humaine actuelle. Nous sommes proches de la fin des 6000 ans de société humaine, du règne de l'homme sous l'influence puissante de Satan le diable. Il est bon que nous comprenions cet aspect des choses. Je sais que nous utilisons souvent 2 Pierre. Je voudrais m'y référer. Reportons-nous donc à 2 Pierre pour commencer à comprendre où nous en sommes. Dans 2 Pierre, dans votre Bible, reportons-nous, s'il vous plaît, à 2 Pierre, chapitre 3, et les versets 3 et 4. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils disent donc que tout est pareil et qu'il n'y a pas de changement. Beaucoup d'entre vous savent que de récentes coupures de presse ont été publiées montrant que les gens sont inquiets. 2 articles différents apparus dans le Weekend Journal montrent que Robert Kagan, l'un des meilleurs analystes de l'actualité qui écrit occasionnellement pour de grandes publications, affirme que le monde entier semble s'effondrer. Les gens se demandent « que se passe-t-il? » Bien sûr, cette jeune femme qui écrit pour l'éditorial du Wall Street Journal, je ne me souviens plus de son nom, et je n'ai pas apporté l'article avec moi, mais elle est très perspicace dans sa compréhension des choses qui se passent. Ici, j'ai l'éditorial de Robert Kagan, mais je n'ai pas celle qui a écrit qui montre que le monde est en train de changer et qu'il y a de l'incertitude. Les dirigeants sonnent une trompette incertaine et ils ne semblent pas savoir ce qui se passe. Les gens se demandent ce qui se passe. Beaucoup de personnes âgées en particulier se rendent compte que ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus le monde dans lequel vous et moi avons grandi si vous êtes les plus âgés. Certains d'entre vous, les plus jeunes, se laissent prendre par ce monde. Je veux que tout le monde comprenne ce que je vais dire cet après-midi, mais surtout vous, les plus jeunes, parce que j'espère pour votre bien, pas pour le mien, mais pour le vôtre, que vous pourrez comprendre. Ce monde est vraiment différent, très différent de ce qu'il était à l'époque où je grandissais, il y a seulement 50 à 70 ans. J'espère que vous pouvez comprendre ce que cela signifie. Pierre dit qu'ils voudront, verset 5, « ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Il y a toutes sortes de signes partout dans le monde, d'une inondation massive, un déluge, pas une inondation locale, mais un déluge. » De nombreux scientifiques ont rapporté des indications du sommet des Andes, dans le sud de l'Amérique du Sud, et ailleurs. Toutes sortes d'artefacts montrant qu'il y aurait eu une grande inondation, un déluge à une certaine époque, jusqu'à ce niveau. Verset 6. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Verset 8. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, et voici le verset clé. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. M. Wakefield a récemment écrit un excellent article sur le plan divin de 7000 ans. Un certain nombre de ministres m'ont écrit des articles ou des idées à ce sujet et nous continuons certainement à croire en ce plan de 7000 ans. Mais Dieu lui-même montre à plusieurs endroits qu'il ne s'agit pas d'une période exacte. Il dit ici, comme nous le remarquerons, et certains de nos linguistes me l'ont fait remarquer, c'est vrai, comme 1000 ans. Cela ne veut pas dire exactement 1000 ans. Je pense vous avoir dit déjà, en parlant avec certains de nos meilleurs chronologistes dans l'Église, il y a un certain nombre d'années, et je les connaissais très bien parce que j'ai enseigné à la plupart d'entre eux à un moment ou à un autre, et j'en ai parlé très ouvertement avec eux. Le docteur Ernest Martin, le docteur Herman Hay, je ne lui ai pas enseigné, mais docteur Robert Kuhn, mon ami Mordecai Joseph, qui a étudié la chronologie dans la liste des rois hébraïques, etc., tous s'accordaient pour dire que le plan de 7000 ans pouvait facilement s'achever 20 ou 30 ans avant ou après la chronologie de l'archevêque Husser. Et encore une fois, il s'agit d'une approximation. Cela nous donne donc jusqu'en 2030, 15 ans de plus ou même 5 ou 6 ans à peu près, parce qu'on ne peut pas être sûr de ces listes de rois ou des dates exactes dans de nombreux cas. Et d'autres choses encore, cette formulation même dit « comme ». Et lorsque nous comprenons le grec original, il s'agit donc d'environ 1000 ans, pas exactement 6000 ans dont nous parlons. Verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il veut donc que tout le monde se repente. Il donne à ce monde quelques années de plus pour subir les conséquences fâcheuses en vivant leur mauvais mode de vie et pour apprendre ses leçons. Mais lorsque la fin arrivera, les événements s'empileront les uns sur les autres, comme vous le savez. Lorsque vous lisez les Écritures dans le livre d'Ézéchiel et ailleurs, il est question de destruction sur destruction et de malheur sur malheur, et ainsi de suite. Une chose va apparemment se répercuter l'une après l'autre sur ce monde. Cela va effrayer les gens. Ils ne comprendront pas comment cela peut se produire si rapidement, mais cela va se produire, et cela va affecter votre vie. Nous devons donc comprendre que ce monde est soumis à la volonté de Satan et que les gens sont confus. La plupart des gens intelligents comprennent vraiment que les choses sont différentes en ce moment, ceux qui ont vécu plus longtemps et qui ont étudié ces choses. Et Satan, le diable, si vous comprenez son plan, il semble être en train de gagner, il semble être sur la voie rapide pour tout changer. Il est en train de changer toute notre société, encore une fois, plus que beaucoup d'entre vous ne le réalisent. Il change presque tout dans notre société. Je veux que vous tous, et vous aussi les jeunes, compreniez cela. Reportons-nous, si vous le voulez bien, à Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. C'est quelque chose de familier et je ne veux pas en lire chaque partie, mais il est question au verset 1 d'un grand signe paraissant dans le ciel et du fait que la femme, l'ancien Israël, a enfanté le Messie et qu'elle allait donner naissance à un fils. Et dès sa naissance, Satan allait essayer de le détruire. Et au verset 5, Apocalypse 12, 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Il n'est pas dit au ciel. La Bible ne mentionne jamais le mot enlèvement, où il emporte les gens au ciel très rapidement. Cela n'est jamais mentionné. Elle a un lieu préparé par Dieu. Il n'y a pas d'enlèvement. Afin d'être nourri pendant 1260 jours. Juste après cela, franchement, quand vous lisez attentivement et que vous comprenez l'histoire, la façon dont la Bible est formulée, voici une période plus calme de centaines d'années. Et la prochaine étape, au verset 7, il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Alors cette prochaine guerre? L'un de ces énergumènes qui se sont détachés de l'Église universelle prétend qu'elle a déjà eu lieu. Elle n'a pas encore eu lieu. Cette guerre n'a pas eu lieu. Lorsque cette guerre finale aura lieu, je vous le dis, une chose horrible après l'autre va se produire, encore plus que ce qui se passe maintenant. Et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8, « Mais ils ne furent pas les plus forts, leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, il fut précipité, le grand dragon, Satan va être chassé du ciel maintenant pour une dernière fois, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. La Bible parle de Satan comme une personnalité spirituelle bien réelle, et pourtant Satan a réussi à séduire les gens, même sur son identité. Tous les gens ne s'en rendent pas compte, ils pensent simplement que c'est une sorte de force aveugle ou rien, ou peu importe. Ainsi, ils ne comprennent pas qu'il y a une véritable personnalité spirituelle responsable de ce monde pour cette période de 6000 ans. Il ne peut pas faire quoi que ce soit sans que Dieu ne permette, mais Dieu lui permet de faire beaucoup de choses ou beaucoup de tromperies. Il est vraiment en train de mettre ce monde sans dessous-dessous, plus que beaucoup ne le réalisent, parce qu'il commence à s'y habituer. C'est comme la grenouille dans la casserole, que vous avez entendu tant de fois. Vous augmentez progressivement le feu et la grenouille reste là. La grenouille ne se rend pas compte qu'elle est sur le point d'être rôtie. Elle reste donc assise jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et c'est le cas de beaucoup de gens dans la société actuelle. Ils ne comprennent pas, la situation va s'aggraver de plus en plus, et ils considèrent cela comme acquis. Ils commencent par se moquer du mari dans les bandes dessinées. Blondie et Dagwood et ailleurs, le mari est rabaissé. Il ne peut plus être le chef de la famille, on se moque de lui en permanence. La petite blonde idéale et efficace prend le relais. Puis, très vite, on se moque des deux parents. Puis, on se moque du prédicateur. Presque tous les prédicateurs protestants, à l'époque où les films mentionnaient les prédicateurs, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ils avaient tous l'air nigauds. Vous savez, ils marchent sur le manche à balai et le balai se lève et les frappe. Ils font tout bizarrement, ils se trompent, ils se moquent des ministres. Même si les gens ne se rendent pas compte qu'ils se trompent de ministres, ils se moquent de l'idée même de Dieu, encore et encore et encore. Votre société, les jeunes, est remplie de cela. L'idée d'un Dieu réel, l'idée de vrais ministres qui devraient être respectés, a été absolument détruite et balayée au-delà de toute croyance. Quand on a vécu aussi longtemps que moi, on se souvient du respect que l'on témoignait autrefois à Dieu, à la Bible, à l'idée de religion. Tout cela a été complètement détruit parce que Satan a séduit le monde entier. Verset 9. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Il va nous accuser parce que nous ne sommes pas d'accord avec tous ces changements. C'est pourquoi nous serons terriblement persécutés, encore plus que les protestants. » Parce qu'au fur et à mesure que la puissance catholique s'accroît en Europe, les protestants vont avoir peur. Tant de protestants ont déjà cédé à toutes sortes de changements qu'ils se contenteront de les accepter et d'aller de l'avant. Ils feront partie de la grande prostituée. Mais nous n'allons pas accepter cela. Et tous les autres changements qui sont en train d'être faits et dont je vais parler ici, nous serons donc persécutés. Ils vont persécuter le peuple de Dieu. Verset 10. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous devons donc prier Dieu pour qu'il nous donne la force, la foi et le courage, particulièrement vous les jeunes, pour que vous compreniez. Vous les jeunes d'Australie, de la Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, de la Grande-Bretagne et du Canada, j'espère que vous comprenez tous. Vous vivez dans un monde différent. Votre monde est en train de se transformer, comme beaucoup d'entre vous le savent. Ce qui existait auparavant, la paix, le sentiment de puissance, le sentiment de grandeur que vos nations avaient, sont en train de disparaître. Nous allons toujours de mal en pis, parce que nos nations se détournent de Dieu, et il n'y aura pas de rétablissement, il n'y aura pas de rétablissement, à moins que nos nations ne se repentent vraiment et ne se tournent vers Dieu d'une manière puissante. Je parle de se tourner vers le Dieu de la Bible, pas la Vierge Marie, pas une fausse idée, mais le Dieu réel, le Dieu de la Bible. Encore une fois, tout cela est à prendre en considération. Cette chose va donc nous tomber dessus, une grande et puissante vague d'influence de Satan le diable, et elle commence déjà à se construire en ce moment même. Allons à Jean, chapitre 8, s'il vous plaît, verset 44. La plupart d'entre vous connaissent très bien ce verset, Jean 8, 44. J'espère que c'est le cas. C'est quelque chose que nous avons vraiment besoin de comprendre, ici dans Jean 8. Jésus-Christ dit aux chefs religieux de son époque, les pharisiens et les sadducéens, au verset 44, « Vous avez pour père le diable. » Ils, les chefs religieux, étaient du diable. Le Christ n'était pas gentil, il était très fort. Jusqu'à quel point pouvez-vous être fort? Il leur dit en pleine face, « Vous, chefs religieux, vous êtes du diable. » Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Voyez, frères et sœurs, Satan le diable veut détruire l'humanité. Nous sommes maintenant en formation, comme vous le savez tous. Comme il est dit dans Apocalypse 2, verset 26, les vainqueurs deviendront des rois et des sacrificateurs. Et dans Apocalypse 5, verset 10, il nous est dit que nous deviendrons un royaume et des sacrificateurs et que nous régnerons, pas dans les cieux, mais sur cette terre. Nous allons remplacer Satan. Nous allons remplacer ses démons. Et il n'aime pas cela. Nous sommes l'ennemi public numéro un. Il essaie de détruire l'humanité. Il essaie de détruire notre famille et tout ce que la famille devrait signifier. Il essaie de nous détruire personnellement. Il essaie de nous détruire à travers votre environnement, notre santé, tout ce qui permet aux êtres humains de vivre. Comme vous le voyez, c'est un assaut inhabituel du diable. C'est un meurtrier. C'est son attitude, comme nous le dit Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous l'avons lu. Nous devons donc méditer là-dessus. Satan est un meurtrier. Il veut détruire l'humanité, verset 44. Il a été un meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il ment et ment et ment. Ses ministres mentent, mentent et mentent. Ses serviteurs dans les médias mentent souvent. Il a pris le contrôle des médias. Nous avions l'habitude de parler de trois domaines, la famille, l'Église et la nation. Maintenant, nous avons le quatrième domaine, les médias, et il contrôle ce que la plupart des gens pensent. Lorsque vous écoutez certains médias publics, comme j'ai entendu ce matin sur NPR, si vous voyez comment ils formulent tout politiquement, la manière dont ils le présentent, si vous êtes intelligent ou habitué à eux, vous pouvez voir très rapidement de quel côté ils se situent. Ils ne disent pas « nous sommes contre les républicains ou les conservateurs », mais ils le sont. Ils les dénigrent automatiquement dans la manière dont ils formulent leurs propos. Ils les ridiculisent toujours ou presque. De temps en temps, ils agissent différemment, peut-être pour embrouiller les gens, où certains d'entre eux peuvent être à moitié normaux. Mais les médias progressistes, et ils se qualifient eux-mêmes de progressistes, sont doués pour les jeux de mots. Ils sont souvent l'exact opposé de ce qu'ils disent. Le point de vue opposé, sont-ils progressistes? Ils ne sont pas progressistes, ils sont régressifs. Ils nous ramènent tout droit à Sodome et Gomorre. Et ils n'aiment pas l'admettre. Alors ils se disent progressistes. Verset 44. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Vous avez donc affaire à un être spirituel puissant qui est le Dieu de ce siècle, comme il est appelé à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, et qui a introduit tout un univers alternatif. Ce que je vise aujourd'hui, c'est que vous soyez tous conscients de l'univers alternatif de Satan. Et vous, les jeunes, méfiez-vous de l'univers alternatif de Satan. Méfiez-vous de l'univers alternatif de Satan. Il a inventé un tout autre mode de pensée, un tout autre mode de vie, et il le fait miroiter à notre société. Encore une fois, plusieurs d'entre vous, frères et sœurs plus âgés, y réfléchissent parce que vous lisez peut-être pas autant que moi ou que certains d'entre nous. C'est notre travail d'être vos sentinelles et nous lisons, étudions et prions beaucoup à propos de ces choses. Quelle est donc la réponse? Et bien sûr, nous connaissons tous la réponse, si nous sommes honnêtes et que nous nous prouvons à nous-mêmes qu'il y a un Dieu très réel. Vous devez le faire à un moment donné de votre vie et prouver que cette Bible, ce livre, est la révélation de Dieu. C'est Dieu qui parle. Ce livre représente la pensée de Dieu. Réfléchissez à ce que je dis. Il représente la pensée de Dieu pour l'homme et la femme. Il représente la pensée de Dieu sur le mariage. Il représente la pensée de Dieu sur la santé, la nourriture, la diète, l'exercice et tout ce qui s'y rapporte. Il représente la pensée de Dieu, les principes de base, à chaque phase, à chaque facette de la vie. Et je ne commencerai pas à couvrir tout cela aujourd'hui. J'écrirai peut-être une brochure à ce sujet. Je pense qu'elle serait très efficace, l'univers alternatif de Satan. Peut-être que Monica peut dactylographier ce sermon et que nous en ferons une brochure. Mais nous devons réfléchir à cela parce que c'est un sujet fondamental concernant ce monde séduit, frères et sœurs. Je veux donc que vous compreniez vraiment, parce que cela affecte votre vie en ce moment même et que beaucoup de nos jeunes se font déjà avoir. Je le sais parce que je parle à certains de nos ministres. J'ai rencontré un certain nombre de nos jeunes au camp d'été, des jeunes très gentils. Mais ils ont grandi dans ce contexte. Ils considèrent ces choses comme allant de soi. Ce ne sont pas de mauvais jeunes gens. Ils attendent simplement ces choses encore et encore et encore toute la journée, sur Internet, à la radio, à la télévision, dans les journaux et les magazines qu'ils lisent. On leur présente le fait qu'il n'y a presque pas de différence ou très peu de différence entre l'homme et la femme, et que par conséquent, le mariage entre personnes de même sexe ne pose pas de problème. Peu importe qui vous aimez, vous pouvez le marier. Je suppose que si vous aimez votre chien, et on en arrive là, si vous aimez votre chien et vous l'aimez vraiment, vous devriez pouvoir l'épouser, n'est-ce pas? Une chose mène à l'autre, et on est déjà là. Vous allez peut-être me dire que je suis fou. Non, cela se passe déjà en Allemagne, en ce moment même. Des articles ont été publiés à ce sujet. Vous aimez votre chien? Qu'y a-t-il de mal à aimer votre chien? Quel est le problème avec l'amour? Il faut d'abord comprendre ce qu'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Comprenez-le bien, jeunes gens. Si vous ne comprenez pas l'amour, vous ne comprenez pas ce dont nous parlons ici. 1 Jean 5:3 nous dit, c'est la pensée de Dieu, verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, au pluriel, les 10, et ses commandements ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas trop durs. Qu'y a-t-il de si difficile à aimer Dieu? Qu'y a-t-il de si difficile à aimer son prochain? Qu'y a-t-il de si difficile à ne pas tuer d'autres personnes, à ne pas voler, à ne pas mentir, à honorer son père et sa mère, à ne pas commettre d'adultère, et à se reposer un jour sur sept? Qu'y a-t-il de si difficile dans tout cela? Satan donne l'impression que tout cela est difficile. Ce n'est pas si difficile si les gens le font. À l'ambassadeur collège, j'ai constaté par moi-même que le respect du sabbat était le commandement le plus facile à respecter, parce que tout au long de la semaine, 6 jours durant, il fallait s'abstenir de convoitise, de la haine et d'égoïste, mais un jour par semaine, il suffisait de se reposer. Ce que tout le collège faisait, de toute façon. Ce n'est donc pas si difficile à faire quand on est dans ce genre d'atmosphère. C'est l'un des commandements les plus simples. Pourtant, Satan essaie de le rendre difficile, le saint jour du sabbat de Dieu. Il a complètement bouleversé le monde dans presque toutes les phases de la vie, et je veux vous donner un aperçu de cela aujourd'hui, bien que je ne puisse pas, encore une fois, commencer à couvrir tout cela. Il est très important que vous le compreniez. La clé est donc Luc 4, verset 4. Luc 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Encore une fois, ce livre est la révélation de Dieu. Lorsque vous le comprenez et que vous le lisez attentivement, il est la révélation de la façon dont Dieu pense à propos de tout. Si vous pouviez simplement comprendre cela, vous commenceriez à comprendre tout le reste d'une manière correcte. Il s'agit là d'un concept majeur. Il vous aide à comprendre tout le concept de l'homme et de la femme. Il vous aide à comprendre le bon concept du mariage. Il vous aide à comprendre les problèmes ethniques que nous avons aujourd'hui, pas seulement la race, mais même les combats et les guerres entre les groupes ethniques. Il dit dans Matthieu 24, verset 7, « Une nation s'élèvera contre une nation, et le mot grec est ethnos. Il ne s'agit pas seulement de race. Les Arabes sont de la race blanche, mais ils attaquent d'autres personnes qui ne sont pas des descendants d'Ismaël. Parfois, ils attaquent même leurs compatriotes ismaélites, qui ne partagent pas leur religion forte, en un sens, leur interprétation particulière de l'islam. » Nous devons donc comprendre comment Satan nous divise de toutes ces manières. Ce n'est pas Dieu qui nous divise, c'est Satan le diable qui le fait. Nous devons donc comprendre la parole de Dieu pour saisir ce qui se passe en ce moment même sous nos yeux. Cependant, bien sûr, il est important que nous comprenions la nature que Dieu a créée dans les différents êtres humains. C'est une chose essentielle dont je pense que nous devrions davantage prêcher l'importance, et je sais que M. Wenel essaie de le faire, et nous devons tous le faire davantage, nous devons commencer à prêcher davantage de la bonne manière. Et j'aimerais écrire un article à ce sujet, j'espère que personne ne m'enlèvera cette phrase. Les fils de Joseph, nous devons comprendre qui est Israël, les 12 tribus. Mais parmi les 12 tribus, vous avez bien sûr les fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. Dieu en parle, mais là encore, Satan est en train d'effacer tout cela. Il ne veut pas que nous sachions qui sont les fils de Jacob, les 12 tribus. Il ne veut pas que nous sachions qui sont les fils de Joseph, l'Amérique et la Grande-Bretagne. Il ne veut pas que nous réalisions que les énormes promesses que Dieu leur a faites se sont merveilleusement accomplies. Dieu commence à en retirer une partie à cause de nos péchés, mais nous devons le comprendre. Pour en avoir un petit aperçu de ce contexte, tournez avec moi à Genèse. Si vous voulez bien, frères et sœurs, reportons-nous à Genèse 49. Genèse 49. Ici, vers la fin de la vie de Jacob. Et rappelez-vous que le nom de Jacob a été changé en Israël. Israël, vainqueur de Dieu, prince de Dieu, El est l'un des noms de Dieu, bien sûr, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, etc. Genèse 49, verset 1, Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Nous sommes maintenant dans ces derniers jours. » Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, c'est le peuple français. Toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Ils ont beaucoup de culture, ils ont toutes sortes de musique, d'art, de littérature, etc. Une grande partie de cette culture est bonne, mais ils sont instables. Les gouvernements se sont succédés les uns après les autres après la Seconde Guerre mondiale. Verset 4, tu n'auras pas la prééminence. Ils n'ont pas été les plus grands. Ils sont contrariés parce qu'ils étaient les principaux au Canada, mais les Britanniques ont fini par prendre le dessus. Ils étaient les plus importants dans le sud de l'Amérique et dans le Midwest, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont vendu et nous avons obtenu l'achat de la Louisiane, une quinzaine d'États. Nous contrôlons tout cela, y compris mon État natal, le Missouri. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui l'ont obtenu, et non la France. Et ils l'ont eu en premier. En Inde, ils l'ont eu en premier, mais d'une manière ou d'une autre, c'est la Grande-Bretagne qui a fini par l'avoir. Dieu a continuellement enlevé ces choses qui, historiquement, étaient d'abord françaises à cause de leur père. C'était dans leur nature. Leur père Ruben, verset 4, monta sur la couche de son père et commit l'inceste dans un sens et le souilla. C'est ainsi que Dieu leur a retiré cette bénédiction. Puis au verset 8 de Juda, voici le peuple juif. Et encore une fois, vous les jeunes, mettez les choses au clair. Juif ne veut pas dire Israël, et Israël ne veut pas dire juif. Nous sommes en Caroline du Nord. La Caroline du Nord est l'un des 50 États. Tous les habitants de la Caroline du Nord, s'ils sont citoyens ou même habitants, peuvent dire qu'ils sont Américains, parce qu'ils font partie des 50 États. Mais tous les Américains ne sont pas des Caroliniens. Je pense que vous le savez, mais vous devez y réfléchir, car le monde a été conditionné de la mauvaise manière. Ils pensent qu'Israël signifie « juif ». Ce n'est pas le cas. La plupart des Israélites ne sont pas du tout juifs. Pourtant, les protestants et les catholiques se sont enfoncés dans le crâne qu'Israël est synonyme de juif. Non, ce n'est pas le cas. L'une des 12 tribus d'Israël s'appelait Juda, l'une des 12. Ces gens sont les juifs, pas les autres. Verset 8. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Beaucoup d'entre vous savent que le mot Juda en hébreu signifie louange. Les Juifs, encore une fois, frères et sœurs, il faut que vous compreniez, il y a une différence entre les groupes ethniques de l'humanité. Ce n'est pas mal. Je ne suis pas juif et je ne me vante pas donc d'être avec eux. Je n'ai pas une goutte de sang juif, pour autant que je sache, mais Dieu a créé les Juifs pour qu'ils aient un éclat particulier. Plus que n'importe quel autre groupe ethnique sur la terre. Si cela vous blesse, j'en suis désolé, cela ne me blesse pas, je n'en suis pas un. Mais je vais dire ce que Dieu a fait. Il a fait dans un grand but. La plupart de nos Einstein, de nos Bernstein et de nos grands scientifiques, etc., sont juifs. Si vous regardez la liste de ceux qui ont reçu les prix Nobel de sciences, de médecine et autres, la plupart sont des juifs. Qui sont ceux aussi qui ont mis au point les mauvaises choses? La bombe atomique, la bombe à hydrogène, le père de la bombe à hydrogène, bien sûr, est un juif britannique, et le père de la bombe atomique, Oppenheimer, est un juif américain. Tous deux étaient juifs. Qui était le père du communisme? Karl Marx, un juif. Qui est le père de la psychologie moderne? Là encore, un juif. Ils sont toujours à la pointe du savoir, et presque toujours des hommes. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit le chef. Ce n'est pas une femme juive, c'est généralement un homme juif. C'est comme cela. Je ne veux pas blesser les femmes, mais Dieu a créé l'homme avec une plus grande capacité de leadership et de création, et c'est ce qui s'est toujours passé. C'est donc eux qui sont là. Cela ne veut pas dire qu'ils sont les plus grands. Dieu a laissé les autres tribus d'Israël, en particulier Éphraïm et Manassé, avoir une plus grande capacité de leadership et d'administration, parce que les Juifs sont individuellement brillants, mais ils sauteront par ici et par là. Ainsi, ils seront le chef de file, évidemment, de la psychologie, où ils seront le chef de file du communisme, où ils seront parfois à la tête de quelque chose de mauvais. Ils ne sont pas toujours à la tête de quelque chose de bien, mais ils sont individuellement des gens brillants, plus que la normale. Ils sont brillants, et c'est une bonne chose, et c'est bon que nous le comprenions. Mais que se passera-t-il si Dieu nous guidait tous vers le mariage avec tout le monde? Nous deviendrions tous pareils, plus de race. C'est ce que Satan a en tête. Si vous comprenez cela, alors il n'y aurait plus de personne brillante qui a été considérée comme l'homme du siècle par le magazine Time? Einstein, l'un des esprits et des cerveaux les plus impressionnants jamais vus, comme l'ont montré les études menées plus tard sur son cerveau. Il était juif. Il avait cette capacité. Voulez-vous éliminer tous les Einstein afin qu'il n'y en ait plus et que nous puissions tous être pareils? Non. Voulez-vous que tout le monde soit blanc? Non. Si vous aviez ce mélange, alors il n'y aurait plus cela. Non seulement il n'y aurait plus de juifs, mais nous serions tous une sorte de race brun-jaune. Il n'y aurait plus de force individuelle. Le génie, les opportunités artistiques et les capacités que nous avons dans la race humaine. Les hommes d'aujourd'hui, les hommes charnels sous Satan, veulent dire que nous sommes tous pareils, hommes et femmes. Eh bien, jusqu'à récemment, les Français disaient « Vive la différence ». Nous sommes heureux d'être différents. Nous sommes heureux d'avoir ces belles femmes pour compagnes, épouses, mères et amies. Nous en sommes reconnaissants à Dieu. Nous sommes heureux qu'il y ait une différence. Dieu a créé une différence et nous devrions l'apprécier profondément. Il y a une différence entre le mal. Il y a une différence entre les différents groupes ethniques. Ce n'est pas une critique. C'est quelque chose que Dieu a créé, la merveilleuse diversité que Dieu lui-même a mise dans l'humanité. Mais Satan essaie de détruire cela. Une autre chose qu'il essaie de faire, bien sûr, est d'introduire l'une des choses les plus horribles qui se soient produites dans les temps modernes. Non seulement le contrôle des médias, où il donne le ton en martelant les choses dans notre tête, des choses erronées moralement jour et nuit, mais maintenant l'idée du politiquement correct. Le politiquement correct, et on n'est pas censé parler de la différence entre les groupes ethniques. Vous n'êtes pas censé dire que c'est mal pour les hommes d'épouser des hommes. C'est faire preuve de jugement. Non, ce n'est pas porter un jugement erroné. Nous avions l'habitude de parler dans la société tout le temps d'une personne discriminante. Une femme discriminante était une femme qui avait très bon goût. Elle s'habillait bien, se soignait, connaissait les derniers styles et les dernières façons de se divertir, etc. C'était une très bonne chose. Le bon type de discrimination. Nous devons avoir le bon type de discrimination. C'est ce qu'a fait Jésus-Christ. Il a dit à la femme, « Non, je ne peux pas guérir ta fille. Je ne dois pas prendre le pain des enfants et le donner aux chiens. » Quoi? Wow! Le Christ était politiquement incorrect lorsqu'il a dit cela. C'était une païenne, et il n'a pas choisi de lui donner ses bénédictions. Mais elle s'est tellement humiliée, parce qu'elle a perçu le pouvoir qu'il avait, qu'elle a dit, dans Matthieu 15, verset 27, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » La compassion du Christ était à son comble. Alors il dit, « Rentre chez toi, ta fille est guérie. » Ta fille est guérie, et elle était guérie. Mais elle s'est humiliée. À l'époque, bien sûr, on avait tendance à rabaisser les gens dans la société, plus que nous le ferions aujourd'hui. Le Christ était Dieu, et il l'a fait. Nous ne devons pas le faire de la même manière que lui, car nous ne sommes pas le Christ. Nous ne comprenons pas tout cela parfaitement. Je ne dis pas que nous devons le faire, mais nous devons comprendre ces différences ethniques. Ce n'est pas une erreur. Jésus-Christ l'a fait. Jésus-Christ l'a fait. Bien sûr, vous avez lu le livre de Néhémie, et Néhémie s'est littéralement arraché les cheveux et arracha les cheveux de certains des Lévites pour avoir permis aux gens d'épouser des païens, en partie à cause des différences raciales, en partie sans doute à cause des différences religieuses. Il était très contrarié en tant que serviteur de Dieu que ces choses se produisent. Était-ce une erreur? Non, c'est un serviteur de Dieu, et c'est ce que Dieu écrit dans la Bible. Revenons à ce stade en pensant aux récentes tueries qui viennent d'avoir lieu dans toute l'Europe. Comment se fait-il que les auteurs de ces actes s'appellent souvent Mohamed ou un autre nom très arabe? Tout cela remonte à la Genèse, si l'on comprend bien. Dans le livre de la Genèse, Dieu a laissé Saraï renvoyer sa servante Agar, et l'ange du Seigneur lui disait dans Genèse 16, verset 9, l'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Verset 10, l'ange de l'Éternel lui dit, « L'ange était le Christ, voyez-vous. » Le mot « ange » vient du mot « messager ». Il s'agissait en fait du Christ. Verset 10, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël. » Ce qui signifie « Dieu entend ». Ismaël, elle est Dieu, Dieu entend. car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Mais son nom sera Ismaël. Il sera quoi? Un homme gentil, paisible, tranquille, chrétien? Non. Sa nature entière est décrite ici même dans la Bible. Nous ne devons pas l'édulcorer. Nous devons essayer de comprendre la pensée de Dieu. Dieu a-t-il des préjugés? Non, il n'a pas de préjugés. Il nous a créés. Il a créé l'homme pour qu'il soit le chef. Il a créé la femme pour qu'elle aide son mari. Dieu est-il mauvais envers les femmes? Non, il les a créées. C'est lui qui vous a donné le souffle de vie. Mieux vaut donc ne pas se mettre en colère contre Dieu. Ce sera donc Dieu qui fait ceci, mais au verset 12, il dit « Ismaël sera un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Il en est ainsi depuis des milliers d'années. Ils ont connu toutes sortes de guerres et de bouleversements, où ils se sont battus les uns contre les autres, ils se sont entretués. Ensuite, un dictateur arrive, comme Moubarak en Égypte ou Saddam Hussein en Irak, et exerce une forte pression pour se maintenir au pouvoir. » Cela fonctionne mieux, parce que c'est ce à quoi ils sont habitués. Ils ont peur de sortir du rang. Puis l'Amérique arrive, supprime bêtement le dictateur, et il recommence à s'entretuer et à nous tuer. Il en a toujours été ainsi, depuis des centaines d'années, c'est leur nature. Est-ce que c'est ce qui se passe aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne ou en Australie? Dès qu'un dictateur disparaît, nous commençons à nous entretuer à droite et à gauche? Non, ce n'est pas notre nature. Dieu n'a pas fait de nous des hommes sauvages par nature. Nous ne sommes pas faits ainsi. Suis-je politiquement incorrect en disant cela? Bien sûr que oui. Je suis très politiquement incorrect, et ce livre est très politiquement incorrect. Le jour viendra où l'on interdira totalement la Bible. C'est pourquoi je vous dis ces choses maintenant. Vous devez comprendre qu'il y a un Dieu réel au ciel. Il laisse cette société courir à la catastrophe d'une manière qui affecte votre vie et qui va l'affecter terriblement. Nous devons donc comprendre la pensée de Dieu sur toutes ces choses. Satan essaie de détruire l'humanité, et il va détruire l'humanité par la guerre, comme vous le lisez dans Matthieu 24, versets 21 et 22. Matthieu 24, versets 21 et 22. « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, vivant. L'humanité se détruira elle-même, livrée à elle-même sous l'influence de Satan le diable, à moins que Dieu ne l'arrête. Dieu doit intervenir et l'arrêter, sinon Satan nous conduira à nous détruire nous-mêmes. Des épidémies de maladies vont commencer à balayer le pays. Des épidémies horribles. Les médecins sont-ils mauvais? Non. La plupart des médecins sont sincères. Ils veulent faire du bien, mais ils ne pourront pas les arrêter. En outre, M. Meakin, en Grande-Bretagne, a écrit un très bon article à paraître dans la revue du Monde de demain de mars-avril 2016, qui parle des superbactéries. Ils ont mis au point tous ces médicaments, mais maintenant, les diverses toxines se développent, affectant les gens, et les médicaments ne seront plus en mesure de vaincre ces épidémies à venir. C'est ce que démontrent, citation après citation, les revues médicales. Cela va se retourner contre nous. Les superbactéries qui se sont développées à un tel point que les médicaments ne fonctionneront plus. Lorsque les prochaines pandémies commenceront à déferler, les médecins et tous leurs médicaments ne fonctionneront pas. De plus, ils risquent d'être dépassés par le nombre de choses qui se produiront simultanément. Des millions de personnes mourront, comme le dit l'Apocalypse. Environ un quart de l'humanité. C'est terrible de penser à cela. Des centaines de millions de personnes mourront d'épidémies, toujours sous l'influence de Satan le diable. Pourquoi? Parce que nous enfreignons les lois de Dieu. Nous mangeons de mauvais aliments. Nous laissons notre société entière être polluée. Et nous ne faisons pas confiance à Dieu pour guérir. Si nous ne voulons pas et nous ne faisons pas confiance à Dieu pour guérir, ainsi Dieu ne protégera pas la société. Il a dit à l'ancien Israël, « Si vous me faites confiance et si vous m'obéissez, j'éloignerai de vous tous les fléaux de l'Égypte. » Les Américains font-ils cela? Non, nous ne le faisons pas. Nous laissons nos gens à la radio et à la télévision se moquer de Dieu, le dénigrer, pratiquement maudire le nom de Dieu en public, encore et encore et encore. Nous laissons les gens faire un pied de nez à Dieu. Même la Cour suprême autorise les hommes à épouser des hommes et les femmes à épouser des femmes. C'est un affront terrible à Dieu. Dieu ne l'ignore pas. Il en a assez. C'est pourquoi il va laisser ces choses nous arriver. Nous tuons des millions de personnes, soit environ 45 millions de bébés à naître. On dit qu'au moins 45 millions d'êtres humains à naître ont été avortés. Plus de millions supplémentaires, sans aucun doute, en Chine, où la politique de l'enfant unique est en vigueur jusqu'à récemment. Combien de dizaines de millions de petits-enfants ont été tués en Chine, en particulier des petites filles? Ils tuent les petites filles parce qu'elles ne font pas de bons guerriers. Ils sauvent les hommes et ils tuent les petites filles. Vous, les femmes, vous avez souvent de la sympathie pour les opprimés. Eh bien, je le regrette. Vous feriez mieux d'avoir de la sympathie pour Dieu et sa voix. Dieu protégeait les femmes. Dieu protégerait les femmes et ne laisserait pas cela se produire. Dans la Rome antique, avant l'arrivée des chrétiens, avec le peu de connaissances qu'ils avaient, ils avaient tout mélangé, mais frères et sœurs, comme je l'ai déjà dit, laissez-moi le répéter, dans la mesure, écoutez ceci, dans la mesure où les hommes suivent ce qui est écrit dans ce livre, dans cette mesure, ils s'en sortent mieux. Lorsque même le faux christianisme est arrivé à Rome, les jeux païens, où l'on mettait les hommes avec des animaux sauvages et on les tuait, il y avait des hommes qui tuaient des hommes, là, dans les arènes, cela a commencé à cesser, le massacre des petites filles, où ils les laissaient mourir de froid dans la neige parce qu'ils ne voulaient pas les nourrir. Elles ne servaient à rien dans les guerres. Cela se faisait partout. Et ils ont mis fin à cette pratique parce que les chrétiens ont appris, dans cette mesure, le caractère sacré de la vie humaine, hommes et femmes. Dans la mesure où les gens suivent ce livre, la pensée de Dieu, ils s'en sortent mieux. Ne vous moquez donc pas de cela. Certains d'entre vous, jeunes gens, sont très favorables à l'idée de l'avortement. On vous l'a martelé dans le cerveau. Certains d'entre vous sont très favorables aux homosexuels. On vous a dit et répété que c'était acceptable. Ce n'est pas bien, ce n'est pas la volonté de Dieu. Cela détruit tout le concept de la famille. L'homme étant le chef de la famille et la femme se soumettant à son mari et ayant des enfants et une famille de façon normale. Le contraire détruit la famille. Cela va détruire un homme qui développe son leadership, qui est capable de diriger et qui a le caractère nécessaire pour soutenir sa famille et tenir bon. Cela va détruire l'attitude des femmes qui sortent et qui ne vont pas se soumettre à un homme. Alors que font-elles? Elles s'adonnent à l'homosexualité, à diverses formes de perversion sexuelle, et il y a aussi d'énormes viols. J'ai lu beaucoup à ce sujet. Je ne suis pas en train de prêcher sur ce sujet aujourd'hui, sinon je vous donnerai des faits et des faits tirés de revues médicales. J'ai quelques amis médecins qui me donnent ces informations, mais le taux de suicide chez les homosexuels est en forte hausse, très élevé. Le taux de mortalité dû à des cancers de toutes sortes est bien plus élevé chez les homosexuels. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent des parties de leur corps à des fins que le Créateur n'a jamais prévues. Il n'a jamais voulu que leur corps soit utilisé de cette façon. Ils sont donc responsables de cette situation parce qu'ils se rebellent contre Dieu. Dieu a créé l'homme pour la femme. Dieu a fait la femme pour l'homme. Ce n'est pas mal, c'est le plan de Dieu. C'est ce que Dieu voulait depuis le début. Nous devons donc vraiment commencer à y réfléchir du point de vue de Dieu et essayer de comprendre et d'apprécier ce que Dieu a fait. Satan essaie donc de détruire tout cela. Une autre chose à laquelle il faut faire attention dans l'univers alternatif de Satan, ce sont les jeux de mots. Satan et ses serviteurs jouent avec les mots. Ils appellent l'avortement une question de santé féminine. L'avortement est-il un problème de santé des femmes? Lorsque Dieu lui-même a fait naître son fils, a-t-il dit à Marie, « Tu sais, tu n'es pas encore mariée à Joseph, alors tu le petit bébé? Tu le bébé qui allait être le Dieu dans la chair? » C'est ce qui se serait passé. Non, il ne l'a pas fait. L'avortement est-il donc une question de santé pour la femme? Ou une question de santé pour la mère? Non, c'est une question de meurtre du bébé. L'avortement est-il une question de santé pour la femme ou une question de meurtre pour le bébé à naître? Comme je l'ai dit, une femme peut choisir d'être une mère ou une meurtrière. C'est ainsi qu'il faut voir les choses. Si vous ne le faites pas de la bonne manière, eh bien, c'est juste une question de santé pour la femme. Elle prend soin de sa santé. Quoi? La plupart des personnes qui avortent, comme c'est prouvé dans de nombreux articles et dans de nombreux magazines grand public, je l'ai prouvé, ma secrétaire Monica peut vous le dire, j'ai un vieux dossier rempli de coupures de presse. Elle en a probablement assez de les conserver provenant de divers magazines et journaux d'information. Et elles diront toutes, à partir des sources différentes, que la plupart des avortements ont été pratiqués sur des femmes mariées. Elles ne veulent tout simplement pas être prudentes. Elles veulent avoir des relations sexuelles quand et comment et avec qui elles veulent. Elles ne prennent pas soin d'elles-mêmes, puis elles essaient de rejeter la faute sur Dieu, je suppose, et vont tuer le bébé. Elle tue le bébé, il ne s'agit pas d'une affaire de dernière minute. Une petite fille enceinte effrayée à mort qui ne comprend pas, même si ce n'est pas bien non plus. D'une manière ou d'une autre, c'est mal, c'est un meurtre. C'est tout simplement un meurtre. Réalisez-vous, jeunes gens, lors du jugement du grand trône blanc, certaines de ces jeunes femmes qui ont tué leur bébé, je ne dis pas que cela arrivera, mais je pense que cela arrivera probablement. Elles seront ressuscitées lors du jugement du grand trône blanc, et il se peut qu'elles aient à faire face à cet enfant. Dieu va ramener cet enfant, qui était déjà un être humain, et à réaliser qu'elles ont tué cet enfant. Alors elles auront une chance, une commission de Dieu, qui est juste là en la personne du Christ, pour élever cet enfant qu'elles auront refusé d'élever auparavant, et elles ont tué. Elles ont tué ce petit enfant, pourquoi? À cause de la société alternative de Satan. La façon dont il présente ces choses fait paraître le mal bien et le bien mal. Il a une façon de présenter les choses de manière erronée. Ainsi, l'avortement tue des petits bébés. Une autre chose que je veux que vous compreniez, et je l'ai déjà mentionné, mais je tiens à le souligner, l'un des meilleurs livres que je n'ai jamais lu, à part la Bible et l'autobiographie de M. Armstrong, c'est un livre magnifique, The Marketing of Evil, par David Kapilian. C'est un Arménien, comme notre ami M. Appartient. Il a écrit un livre brillant, et bien sûr, je ne peux pas commencer à le lire en entier dans le sermon d'aujourd'hui. J'ai commencé à marquer certaines choses que je voulais vous dire, et je l'ai marqué jusqu'au bout. D'ailleurs, vous verrez qu'il est entièrement annoté. En fait, j'en ai deux exemplaires, un à la maison et un au bureau. Mais pourquoi l'anti-américanisme se banalise-t-il, même chez les Américains? Qu'est-ce qui se cache derrière la révolution sexuelle, même au collège? Pourquoi les parents ont-ils de plus en plus peur de laisser leurs enfants regarder la télévision? Pourquoi notre système juridique criminalise-t-il la prière publique? Pourquoi la moitié des mariages américains s'effondrent-ils, y compris les mariages soi-disant chrétiens? Comment est-il possible que des bébés nés avant terme soient légalement avortés malgré la désapprobation de l'opinion publique? Pourquoi est-il plus difficile de savoir si les experts vous disent la vérité? Ils ne vous disent pas la vérité. Beaucoup d'experts disent, comme vous le savez, quand vous lisez qu'on est homosexuel. Non, on n'en est pas homosexuel. J'ai lu et étudié cette question et je suis en contact avec un ou deux médecins qui m'ont aidé à faire des recherches dans des revues médicales. J'ai lu beaucoup sur le sujet. Et même les dirigeants du mouvement gay admettent qu'il n'y a pas, tenez-vous bien, il n'y a pas de gène gay. Cela n'existe pas. Aucun être humain n'est né pour faire cela. Dieu a-t-il créé quelqu'un pour qu'il commette ce genre d'abomination qui le conduira à l'état de feu? Non! Il est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. J'espère que ma mémoire est correcte. Verset 13 dit, « Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Dieu fournira toujours un moyen. Il ne vous tentera pas de cette manière. Vous n'êtes pas fait pour être alcoolique. Vous n'êtes pas fait pour être un toxicomane. Vous n'êtes pas fait pour être un pédophile. Vous n'êtes pas fait pour être homosexuel. Certaines personnes ont une tendance à l'alcoolisme parce que c'est dans leur famille. Il se peut qu'il y ait un certain type de chimie sanguine qui fait que ces personnes ont cette tendance plus que d'autres, mais elles ne sont pas faites ainsi. Certains groupes familiaux ont une plus grande tendance à la violence. Ils sont connus pour être des combattants. On parle des Hatfield ou des McCoys dans le Kentucky, des querelles qui régnaient. Certaines familles sont comme ça. Mais sont-elles faites pour tuer? Non, bien sûr que non. Ce ne sont que des tendances. Comme l'a dit l'un de mes amis dans le ministère, non, je ne suis pas né pour être homosexuel. Je suis né pour être un fornicateur. Et c'est vrai, la plupart des jeunes hommes normaux ont tendance à vouloir être des fornicateurs. Ils cèdent-ils tous? Non, ils ne le font pas. Beaucoup se maintiennent purs. Ils ne sont pas obligés de le faire. Il y a une tendance à cela. Il y a une tendance à faire un mauvais usage du sexe. Certaines familles, plus que d'autres, ont tendance à abuser de l'alcool. Certaines familles ont tendance à être violentes et à provoquer des bagarres. Mais elles ne sont pas obligées de le faire.